Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ce week-end, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Certaines portaient des gilets jaunes, d'autres, des femmes surtout, arboraient du violet, la couleur choisie, pour dénoncer les violences sexuelles. À Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, elles ont marché, défilé, chanté. Et certains slogans sur leurs pancartes faisaient écho à une affaire judiciaire toute récente. L'affaire Georges Tron, dont le procès aux assises pour viol et agression sexuelle en Réunion s'est conclu par son acquittement. Et c'est un dossier à la fois unique et symbolique. Unique par le profil de l'accusé, maire de Draveil dans l'Essonne, ancien député, ancien membre du gouvernement Fillon. Et symbolique car illustrant concrètement les difficultés qu'a encore aujourd'hui, en 2018, la justice française à juger des violences sexistes et sexuelles, surtout lorsque le mis en cause est un homme doté d'un certain pouvoir. Alors quelles leçons peut-on tirer de ce procès? Et comment les associations de défense des victimes de violences sexuelles l'ont vécu? Et surtout, quels enseignements en tirent-elles de leur côté? Ce sont les questions qu'on va se poser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, un résumé express de l'affaire, sans trop entrer dans les détails. Tout démarre en 2011. Georges Tron est alors secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Et il fait l'objet d'une plainte, déposée par deux anciennes collaboratrices de sa mairie de Draveil, qui l'accusent d'avoir, avec son adjointe à la culture Brigitte Gruel, profité de séances de massage des pieds, dont il est un adepte, pour les agresser sexuellement et les violer. Georges Tron quitte alors le gouvernement et s'engage à un long processus judiciaire, qui va d'abord aboutir à un non-lieu fin 2013, avant que la cour d'appel de Paris ne décide d'infirmer cette décision. Et donc de renvoyer tout le monde devant les assises. Un premier procès démarre fin 2017, il est interrompu, il reprend fin octobre 2018, le parquet requiert 6 ans de prison contre Georges Tron, mais la décision finale est tout autre puisque, comme on l'a dit, les deux accusés ont été acquittés. Ce n'est pas pour autant le point final du dossier, le parquet a fait appel, il y aura donc un autre procès. Ça va? Vous suivez? Bon. Alors on continue. Il se trouve que dans tout ça, c'est invité un sujet qui nous tient à cœur, la libération de la parole des victimes de violences sexuelles et sexistes, à laquelle on assiste depuis notamment la prise de conscience collective autour du mouvement MeToo. Et pour comprendre comment cet élément sociétal a pesé sur le procès, on est allé en parler avec quelqu'un qui a vu ça de très près. Michel Deléan, journaliste à Mediapart, il a suivi les 4 semaines du procès, et notamment il a vu cette question s'inviter dans les débats.
Oui, c'est un principe qui a été rappelé effectivement plusieurs fois par la défense de Georges Tron, c'est que on jugeait un homme, on jugeait des faits, et il ne s'agissait pas de défendre une cause ou de défendre des grands principes. En droit, c'est tout à fait juste. Après, en opportunité, c'est ce qui lui a servi dans un premier temps à faire interrompre le premier procès qui avait eu lieu fin 2017. En arguant du fait qu'il y avait une émission de télé pendant le procès consacrée à l'affaire et puis qu'il y avait des militantes féministes qui tweetaient pendant le procès. Bon, le procès de toute façon a explosé pour d'autres raisons que celle-là, notamment des raisons de planning qui étaient beaucoup trop courts. Et lorsque le procès a repris pour de bon il y a maintenant un petit peu plus de 4 semaines, la défense de Georges Tron, effectivement, a encore utilisé cet argument pour dire que les féministes se trompaient de cause, qu'elles voulaient des coupables à tout prix, que balance ton porc, ça revenait en fait à empêcher les gens de se défendre et que finalement on voulait simplement mener des gens à l'échafaud. C'est un argument qui a vraisemblablement porté dans l'esprit des jurés parce que d'abord Dupond-Moretti est un avocat qui est rompu aux assises et qui parle la langue du peuple assez facilement. Il n'a pas hésité à utiliser des clichés et puis toute la rouerie dont il peut être capable. Et ce qui a pu porter aussi dans l'esprit des jurés, c'est que le dossier est compliqué, qu'il n'a pas été forcément instruit par les juges d'instruction de façon parfaite, et qu'il y a des erreurs dans les récits des deux plaignantes qui ont des profils psychologiques relativement fragiles. Il y a aussi quelques mensonges qui font qu'au total, le doute a été suffisamment grand dans l'esprit des jurés pour prononcer un acquittement.
Vous avez senti, vous, le procès tourner à ce moment-là, quand cet argument a été matraqué de nombreuses fois par Éric Dupond-Moretti à l'audience, en dehors de l'audience, dans les médias? Vous avez senti, vous, les choses se corser de ce point de vue-là?
Je vous mentirais en disant que j'ai senti tout de suite qu'allait donner ce procès, parce qu'il était absolument incertain dès le départ. Le dossier contient des charges et des indices, mais il a aussi des faiblesses. Donc, moi, je ne savais pas du tout où allait ce procès. La plupart des avocats non plus, mes confrères journalistes non plus. Je l'ai suivi pendant les 4 semaines, tous les jours, pour Mediapart. Et ce que j'ai vu, simplement d'étonnant, en dehors de Dupond-Moretti, qui attire les projecteurs à lui, il parle beaucoup dans les médias, qui participait à des émissions de télé pendant le procès, qui quittait le procès parfois pour aller sur les plateaux. Ce que j'ai senti, en revanche, c'est une très très grande prudence de la part du président du tribunal, presque un petit parfum d'entre-soi, avec des questions beaucoup plus offensives et plus insistantes quand il s'agissait de questionner les plaignantes, qui revendiquait un rôle de victime, et puis beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de tact et beaucoup moins de questions intrusives lorsqu'il s'agissait de questionner Georges Tron. Ça, j'avoue que progressivement, ça m'a posé question, surtout que c'est une technique de président d'assises, hein, il a tout à fait le droit de le faire, mais il n'a pas confronté Georges Tron ni aux témoins, ni à ses accusatrices à la barre. C'est-à-dire mettre les deux personnes côte à côte et essayer de les départager en quelque sorte ou de confronter leurs dépositions. Et il a simplement interrogé Georges Tron la 4e semaine du procès de façon relativement rapide, de mémoire. Ça va durer moins de 2 heures. Et en lui disant, somme toute, bon, puisque vous contestez les accusations elles-mêmes, on ne va pas revenir dessus. Je vais simplement vous poser des questions sur quelques détails. Là, Dupond-Moretti ou pas, on se dit, le président de cette cour d'assises ne croit pas beaucoup aux accusations. J'ai découvert, et on l'a révélé il y a très peu de temps, qu'il y a aussi un petit biais sociologique ou un petit risque de conflit d'intérêts ou de manque d'impartialité, parce que je me suis aperçu que le président de la cour d'assises, qui a donc présidé les débats et qui a aussi présidé au délibéré du jury, avait été membre du cabinet de Pascal Clément à la présidence de la commission des lois entre 2002 et 2004, à une époque où Pascal Clément était député UMP et donc voisin dans l'hémicycle de Georges Tron. Si on avait eu simplement cette petite information-là, on ne l'aurait pas écrite. Il se trouve que 6 mois avant le procès, les magistrats de la cour d'appel de Paris s'en sont aperçus et ont examiné cette difficulté, se sont demandé si ça pouvait faire naître un doute sur l'impartialité du président de la cour d'assises. Et bon, le parquet général pensait qu'il y avait une vraie question. La présidence de la cour d'appel a estimé que la question ne se posait pas et qu'il n'y avait aucun risque. Mais une fois que nous, on apprend ça et qu'on le révèle après le verdict, ça jette quand même un petit éclairage sur ce procès où on ne peut pas s'empêcher de penser que finalement, jury populaire ou pas, le rôle du président d'assises pendant les débats et aussi pendant le délibéré, c'est quelque chose d'important, et que le petit biais sociologique, politique ou éventuellement le petit soupçon de manque d'impartialité qu'on peut ressentir n'est pas à la hauteur des enjeux.
Si je résume, ce serait l'exemple d'une classe à la fois politique, judiciaire, une certaine frange d'hommes qui se protègent entre eux, quelque part.
C'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les affaires politico-financières qu'on suit. La plupart des affaires politico-financières ont démarré à la fin des années 1980, et en fait, peu de choses ont changé depuis. Pour faire carrière dans la magistrature, voire dans la police, pour arriver vraiment à des postes très importants, il vaut mieux ne pas faire de vagues, ne pas se confronter au pouvoir et, si possible, ne pas passer pour une espèce de Robespierre et de vouloir faire tomber des ministres ou des hommes politiques ou des grands patrons. C'est dans l'institution judiciaire et dans l'institution policière aussi, il y a une certaine frilosité, une sorte un peu de réflexe de la raison d'État et de préservation de l'ordre politique, économique et social. Et on répugne toujours plus à condamner quelqu'un de très important, et à plus forte raison de le mettre en prison, qu'à condamner un petit délinquant ou un quidam. Ça, on l'observe tous les jours, et c'est chroniqué tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Alors une fois mis face à ce constat assez déprimant sur l'état de notre système politico-judiciaire, on a eu envie d'aller un peu plus loin. Là, je me tourne vers ma camarade Victoire Toyon. Salut Victoire.
Salut Thomas.
Les habitués de Binge Audio te connaissent bien puisque tu animes entre autres le podcast Les Couilles sur la Table qui est consacré aux questions de genre et particulièrement aux hommes et à la masculinité. Avec toi, on a reçu Marilyn Baldeck que tu avais déjà invitée dans ton émission. Elle est déléguée générale de l'AVFT, l'Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail. Elle a suivi de près l'affaire Trump puisque l'AVFT était partie civile dans le dossier.
Oui, c'est ça. Et elle a lecture des comptes rendus du procès, des questions posées par la cour et des motivations du verdict. D'ailleurs, on vous les a mis en ligne, chers auditeurs, chères auditrices, sur le site de Binge Audio. On vous invite à aller les consulter parce que c'est vraiment très instructif. Donc, à la lecture de tout ça, on a eu l'impression que la cour était complètement ignorante des notions de base sur les violences sexuelles. Donc, j'ai d'abord demandé à Marilyn Baldeck comment elle analysait la manière dont les débats s'étaient tenus.
Alors, je crois que au-delà de la question des questions qui devraient être effectivement tout à fait maîtrisées par les magistrats professionnels de sidération, d'emprise, ce qui a pêché de mon point de vue dans ce procès, c'est une compréhension de l'effet du pouvoir en fait sur les gens. Parce que effectivement, tout ce qui est le fait que les victimes soient paralysées, ne soient pas en capacité d'opposer un refus de manière extrêmement ferme, ça c'est on le sait, c'est extrêmement documenté depuis plusieurs dizaines d'années en réalité. Et là, la question de quelles sont nos marges de manœuvre quand on est en état d'assujettissement, en état de subordination face à un homme qui n'est pas n'importe qui est un élu. Qui est qui ministre, enfin secrétaire d'État, qui est avocat, qui a notre contrat de travail en fait entre les mains,
qui est donc notre employeur,
qui est l'employeur sur un lieu de travail et quelqu'un qui a du pouvoir, et ça c'est 4 semaines d'audience ont été une magistrale démonstration, c'est-à-dire une capacité de manipulation, une capacité de nuisance sur les personnes qui ne sont pas dans son rang, en fait. En fait, c'est tout ça qui n'a pas été pris en considération. C'est comme si tout ça comptait pour du beurre, en fait, alors que c'était vraiment le tableau, le contexte qui permettait de comprendre qu'on a 2 parties civiles, 2 femmes qui n'ont pas pu, et à leur place, on n'aurait peut-être pas pu non plus se comporter autrement dans le cadre de ces scènes sexuelles qui, du reste, ont été considérées comme établies par la cour, alors qu'elles étaient contestées farouchement par les deux accusés depuis 8 ans, depuis le début de la procédure.
Oui, mais ça c'est ils ont toujours dit eux qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle, alors qu'en fait la cour a établi que s'il y en avait bien eu.
Ça, c'est ce qui est extrêmement étonnant dans ce verdict et dans sa motivation, c'est que en fait, elle a fait la démonstration du mensonge et pas un petit mensonge, pas un mensonge sur quelque chose d'à côté en fait, un mensonge qui était tout à fait central dans la procédure. C'est est-ce que ces actes sexuels dont ces femmes les accusaient ont eu lieu ou pas? Nonobstant la question de leur participation libre, de leur consentement à ces scènes. Et donc, depuis le début, l'un et l'autre disaient « Non mais jamais, jamais nous n'avons eu la moindre caresse, la moindre attitude ambiguë avec elle. Jamais ces scènes-là n'ont pas existé. »
Alors qu'elle, en face, disait, en fait, ces scènes ont existé et en plus, elles étaient contraintes et nous n'avons jamais été d'accord pour avoir des relations sexuelles avec vous.
En fait, ce qui est spectaculaire dans cette décision, c'est que ce mensonge incroyable des deux accusés ne leur ait jamais porté préjudice. C'est-à-dire que, en fait, ils ont menti comme des arracheurs de dents pendant 8 ans. Et au final, bah, c'est pas grave, en fait. En revanche, des mensonges tout à fait anecdotiques, voire intéressants même pour comprendre les stratégies d'évitement des victimes, ceux-là ont été retenus à charge contre les victimes. Par exemple, l'une d'entre elles s'est inventé en fait un cancer du col de l'utérus qu'elle n'a pas eu. Elle avait par ailleurs d'autres problèmes, mais pas celui-là. Et donc, elle explique très bien. Et pour nous, c'est parfaitement convaincant, parce que c'est ce qu'on voit depuis 33 ans à l'association, des stratégies d'évitement très inventives de la part des victimes. Elle dit, je savais que Georges Tron était quelqu'un d'extrêmement maniaque, qui a extrêmement peur des maladies, et que le fait de lui dire que j'étais malade, et pas de n'importe quel organe, pas n'importe quel endroit, ça allait faire en sorte qu'il allait me laisser tranquille, qu'il allait arrêter de me toucher. Et donc, en fait, ce mensonge-là, qui est pour nous une des preuves, ce mensonge-là devrait faire partie du faisceau d'indices concordants en faveur des victimes. Ce mensonge-là a été retenu comme, en fait, entachant sa crédibilité et sa crédibilité sur tout, y compris sur le fait qu'elle a opposé une résistance, en tout cas qu'elle n'était pas consentante pour ses actes sexuels.
Comment on peut interpréter juste cette différence de valeur qu'on donne à la parole de cet homme, de Georges Tron, alors qu'il ment et que la Cour reconnaît qu'il ment, la valeur qu'elle accorde à la parole des accusatrices?
Je crois qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. D'abord, on peut répondre on peut faire un rappel historique. Historiquement, la parole des femmes a toujours eu beaucoup moins de valeur que celle des hommes. Il y a encore des pays où un témoignage masculin, il faut 2 témoignages féminins pour que ça s'équilibre. Dans des époques pas si lointaines, y compris en France, y compris en Europe, on raisonnait encore comme ça. C'est-à-dire que la parole d'une femme est toujours soumise à caution, enfin, en tout cas, historiquement soumise à caution, parce que c'est la parole d'un être un peu sensible, un peu fragile, un peu
irrationnel,
suggestible. On peut faire l'hypothèse que c'est des choses qu'on n'a pas complètement évacuées quand on juge ces violences. Après, il y a sans doute d'autres paramètres. Le fait que, peut-être malgré tout, que cette parole vient d'un homme politique qui a été élu par le peuple, on lui donne un poids qui n'est pas le même que celui du poids de la parole de ses accusatrices et le fait que ce soit une parole une parole masculine, une parole posée, une parole égale une parole qui soit dans le rapport de force. Il a été dans le rapport de force en fait, y compris avec l'avocat général, alors qu'il risquait 20 ans d'emprisonnement. On peut peut-être en déduire que s'il a l'air tellement sûr de lui il peut paraître crédible. Après, de la place où nous étions à VFT, partie civile, ça ne marchait pas du tout sur nous. Clairement. C'est une décision qui, par définition, a été rendue dans le secret du délibéré. Donc, on ne peut faire que des hypothèses.
Mais après, on a les motivations et la façon qu'ils ont d'expliquer leur décision est aussi très révélatrice quoi, d'un état d'esprit, de préjugés sexistes. On en parlait tout à l'heure, mais par exemple, qui n'ont pas l'air de comprendre comment s'exerce la contrainte, ils n'ont pas l'air de comprendre comment s'exerce le pouvoir, ou en tout cas pas de le prendre en compte. Par exemple, ils disent le comportement de proximité qu'ont eu les victimes avec Georges Tron sont incompatibles avec les faits allégués. C'est-à-dire, on ne peut pas être proche de quelqu'un qui nous a agressés. Ou qui nous a violés.
Oui, alors ça, c'est incroyablement à côté de la plaque. Si on pense à ce qui se passe en matière de violence conjugale, où les femmes, elles restent pendant des années, pendant 10 ans, pendant 20 ans, aux côtés de leur agresseur, pour autant, ce sont bien des agresseurs et ce sont bien des victimes. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Ce qu'on se disait avec mon excellente collègue qui représentait la constitution de partie civile de la VFT, c'est que le problème, c'est qu'on a jugé Georges Tron et en fait, on a analyser la contrainte comme on l'analyserait pour n'importe quel dossier. Or, ce n'est pas n'importe quel dossier, ce n'est pas n'importe qui l'accusé. Et on ne peut pas demander en fait, à l'accusation, donc en l'occurrence au ministère public et aux parties civiles, aux victimes, de démontrer une contrainte supplémentaire à celle qu'ils représentent intrinsèquement. En fait. Ces hommes-là n'ont pas besoin d'exercer des contraintes plus que celles qu'ils représentent eux-mêmes.
Parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils sont employeurs,
politiques, etc. À eux-mêmes, en fait, ils sont le mode opératoire. Ils sont la contrainte. Ils ont le pouvoir entre les mains.
Alors, au cœur du procès, il y a l'interprétation de la contrainte, de ce qu'est une contrainte. Et en fait, au cœur du procès, il y a la question du consentement. Dans quel sens la loi qui condamne le viol est aujourd'hui interprétée par la justice française ?
Alors, la définition du viol, hein, c'est tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui et commis avec menace, contrainte, violence, surprise ou dans le désordre. À aucun moment, le droit positif français ne dit que le viol, c'est une pénétration sexuelle qui n'a pas été désirée, qui n'a pas été consentie. On peut très bien avoir des arrêts d'acquittement, et d'ailleurs, il y en a un qui est tombé cette semaine dans une affaire qui nous concerne pas, mais où on considère que le défaut de consentement de la victime est établi, mais que pour autant, ça n'est pas du viol, parce que le mis en cause n'a pas eu conscience ou n'a pas pu prendre conscience qu'il imposait en fait ses pénétrations sexuelles. Le dossier auquel je fais référence, c'est parce que il n'aurait pas eu les codes culturels suffisants pour comprendre que cette très jeune fille n'était pas d'accord, ce qui est un vrai scandale, parce que ça fait dépendre en fait la vie des femmes, en fait la sécurité des femmes, du degré de conscientisation des hommes et de leur bonne volonté ou pas, en fait, à eux-mêmes évoluer en fait sur ces questions, à se sensibiliser sur ces questions. Donc ça, c'est juste pas acceptable, c'est trop dangereux.
Donc c'est comme si on considérait que les femmes sont par défaut consentantes et que pour être condamnée, il faut avoir bien conscience qu'on est en train de lui imposer un acte sexuel, donc sous menace, contrainte, violence ou surprise. C'est ça que ça veut dire, en fait, les arrêts là, qui ont été rendus.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que l'élément légal du crime de viol, c'est la conscience de l'auteur d'imposer un acte sexuel non consenti. Il faut qu'il en ait conscience. Ce qui lui, en fait, c'est un mode d'emploi. Hein. Enfin, je veux dire, cet élément-là, c'est un super mode d'emploi pour les violeurs. C'est-à-dire qu'on leur donne un joker incroyable. C'est-à-dire, j'ai pas compris qu'elle n'était pas d'accord parce qu'elle était sidérée, parce que...
Elle a rien dit, parce qu'elle n'a pas bougé, etc. Donc j'ai cru qu'elle était d'accord.
Oui.
Est-ce que ça pourrait être interprété différemment ? Parce que la loi, c'est aussi comment on l'interprète.
Non seulement elle peut être interprétée différemment, mais en plus elle le doit. Elle le doit parce qu'en raisonnant de cette manière-là, les juridictions françaises... viole en fait des obligations conventionnelles, c'est-à-dire des textes supranationaux, notamment la Convention d'Istanbul, hein, qui est une convention du Conseil de l'Europe que la France a ratifiée en 2014. Et cette convention dit dans un article 36.2 que le consentement doit être librement exprimé en fonction des éléments de contexte. Et donc, ce sont ces fameux éléments de contexte que souvent les juges ont du mal à analyser ou ne veulent pas analyser, n'analysent pas, alors qu'ils pourraient déterminer, éclairer en fait ce qui s'est passé et les conduire à considérer qu'il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé.
Donc quand les juges se réfugient en disant c'est la loi française qui est comme ça, ça ne nous permet pas de condamner un certain nombre de faits, c'est pas vrai, ça dépend de la manière dont ils l'interprètent, donc ils sont responsables de ça aussi, ça pourrait être interprété différemment.
Bien sûr, ça, on peut très bien motiver. D'ailleurs, l'arrêt que je vous ai cité de la Cour d'appel de Douai le fait sans aucune difficulté. Des juges du fond ont déjà raisonné de cette manière-là sans être censurés par la Cour de cassation. Donc c'est possible.
J'aurais une question, Marine Malek, sur l'appareil judiciaire en lui-même. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les juristes soient mieux armés, mieux préparés pour traiter de ces questions des violences sexuelles et sexistes ? Et déjà, est-ce qu'il y a une formation spécifique qui existe ? Est-ce que ça rentre dans le cursus des avocats, des magistrats ? Ou est-ce qu'il faut justement créer quelque chose autour de ça ?
Alors ça n'existe quasiment pas ou de manière extrêmement embryonnaire, les formations vraiment orientées sur la défense des victimes de violences sexuelles. Et d'ailleurs j'insiste sur le terme de défense parce que c'est un terme qui est utilisé pour s'agissant de la défense des accusés. On le voit bien, on l'a vu dans le procès Tron, mais on le voit toujours dans ces procès-là. Pour un avocat, une avocate assister une victime de violences sexuelles, c'est faire de la défense pénale. C'est tellement dur, elle est tellement en accusation tout le temps qu'il faut bien, les défendre. Et effectivement, ça devrait pouvoir s'apprendre. En tout cas, un minimum, quand dans le cursus pour devenir avocat, avocate. Et à ma connaissance, ça n'existe pas. S'agissant de la magistrature, alors doucement, à l'École nationale de la magistrature, il y a des modules dédiés à la question du droit des violences sexuelles. Je crois, mais c'est une information qui mériterait d'être vérifiées, qui sont encore facultatifs, que donc ils vont les magistrats qui sont déjà intéressés par la question là, alors que c'est en fonction des tribunaux entre 40-50% en fait du contentieux traité, et que ça paraît complètement inimaginable que ce soit pas d'ailleurs la première chose qu'on apprend aux magistrats, c'est les sensibiliser à ce que sont ces violences, aux stratégies des agresseurs, aux réactions des victimes et aux marges de manœuvre permises par le droit actuel.
Et justement, le droit, est-ce qu'il faut qu'il évolue ou est-ce que c'est son interprétation, on en revient à ce que vous disiez avec Victor tout à l'heure sur l'interprétation de la notion de consentement, est-ce que c'est son interprétation qui doit évoluer ou est-ce que c'est, on va dire, l'arsenal législatif qui doit changer ? Est-ce qu'il faut de nouvelles lois, de nouveaux textes ? Est-ce qu'il faut en passer par le législateur ou est-ce que, avec justement notre droit actuel, on a les armes pour juger de ces affaires ?
Je pense que il y a vraiment une grande marge d'amélioration dans l'interprétation du texte tel qu'il existe. Et qu'avec ce texte en l'état, on peut déjà faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus réalistes, en fait, par rapport à ces violences. Pour autant, ça reste dépendant de la personne qui juge. Et ça, c'est pas possible. Il faut un texte qui harmonise les pratiques sur l'ensemble du territoire, qu'une décision ne soit pas, qu'il n'y ait pas un grand écart entre un juge de Bordeaux ou un juge de Toulouse. Et pour ça, effectivement, il faut une modification législative de la définition du viol. Ça nous paraît l'évidence.
Et comme on le disait tout à l'heure, l'affaire Tron n'est pas terminée puisque le parquet a fait appel, ouvrant la voie à un second procès. Le parquet d'ailleurs a tiré son épingle du jeu durant l'audience grâce à un réquisitoire très fort de l'avocat général Frédéric Bernardo, dans lequel toutes les questions que nous venons d'évoquer étaient très présentes. Comme quoi, les choses sont peut-être en train de progresser dans les prétoires. Merci à Marilyn Baldeck et Michel Deléon pour leurs réponses, à Victoire Toyon pour ses questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.